À ta santé. Et au retour de la pause publicitaire qui va suivre À ta santé, on a une entrevue avec Étienne-Alexandre Beauregard, qui est un étudiant ici en philosophie politique à l'Université Laval, qui sort un livre aujourd'hui même. Donc, on a discuté avec Monsieur Beauregard de son livre. C'est très, très, très intéressant. Je vous encourage à aller écouter ça. Restez donc sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie j'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Pour ne rien manquer des nouvelles culturelles à Québec, rejoignez-moi et mon équipe pour parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie j'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Tous les jours, on en fait. Tous les jours, on en parle. Mais on s'en rend pas compte. En fait, c'est un peu inconscient. Notre vie en société est marquée par, eh oui, la politique. Chiz 94.3 accueille les mercredis juste de la politique, autant pour ceux qui ne la comprennent pas que pour les pros et fans finis. Avec moi, Félix Bouffard et mes collaborateurs, on décortique, analyse et réfléchit la politique locale. Allez, venez participer à la discussion. Juste de la politique, en direct les mercredis 14h et en balado sur chiz.ca.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Le Palais Montcalm présente la musique jazz à son meilleur avec Jeff Neve et Théus Nobel. Le talentueux jazzman flamand Jeff Neve sera accompagné de l'excellent trompettiste néerlandais Théus Nobel, avec lequel il rendra hommage au défunt Toots Thielemann le temps de quelques pièces. Jeff Neve et Théus Nobel le 10 mars à la salle Diouville du Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca.
Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leurs sujets d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute.
Bon midi à tous les auditeurs et auditrices. C'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Benoît Arsenault, qui est chercheur à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, aussi connu sous le nom de IUCPQ, ainsi que professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Donc, Benoît, en fait, tes travaux s'articulent autour de la recherche en santé métabolique et justement, tu as été récemment nommé directeur de la thématique obésité du réseau de recherche en santé cardio-métabolique, diabète et obésité des fonds de recherche du Québec. Donc, félicitations.
Merci.
Puis merci aussi d'avoir accepté là, mon invitation avec ton horaire, j'imagine, quand même chargé.
Ben, ça me fait plaisir d'être là. Merci de l'invitation, Catherine.
Donc, Benoît, en janvier dernier, en plus, là, bon, beaucoup de nominations et de prix. En fait, tu as reçu une bourse de 250 000 pour poursuivre en fait tes recherches en santé cardiovasculaire. Félicitations encore une fois. Puis, comment comptes-tu utiliser ces fonds? Puis, dans quel domaine ou des sphères de recherche là, sur lesquelles tu travailles, tu vas utiliser ça?
Merci d'abord. Merci, Catherine, de l'invitation. Puis, c'est ça. Merci aussi pour cette belle introduction. Nous, dans mon équipe de recherche, on travaille sur la prévention des maladies cardio-métaboliques, comme tu l'as bien mentionné. Et on essaie d'attaquer ce phénomène-là de plusieurs fronts. Donc, on va parler, je pense, dans notre discussion des habitudes de vie, etc. Mais il y a aussi tout un aspect thérapeutique de la prévention des maladies cardio-vasculaires. Parce qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui sont la plupart du temps reliés dans une certaine mesure à nos habitudes de vie, mais aussi dans une certaine mesure à nos gènes puis à notre bagage génétique. Puis il y a un facteur de risque en particulier qui nous intéresse beaucoup qui s'appelle les triglycérides sanguins. Donc ça c'est essentiellement des petites molécules de gras qui vont être présentes dans notre sang, puis plus ben nos triglycérides sanguins sont élevés dans notre sang, ben plus ça augmente notre risque de développer des maladies cardiovasculaires. Donc il y a toutes sortes de compagnies qui vont développer des médicaments pour baisser nos triglycérides sanguins. Il y a une compagnie, en fait, tu faisais référence à la subvention qu'on a reçue. C'est la compagnie Pfizer, en fait, qui a identifié une cible thérapeutique, un gène qui est exprimé dans le foie, qui a un nom très compliqué, mais je vais le dire avec son acronyme, c'est ANGPTL3. Et cette protéine-là va vraiment réguler la concentration de triglycérides sanguins. Donc, eux, ils ont développé un inhibiteur de cette protéine-là. Et ben on le remarque dans les études cliniques, ça fait baisser un petit peu les triglycérides. Puis, ben nous, on s'intéresse aussi à cette protéine-là. Puis, avec des outils génétiques qu'on a développés dans notre laboratoire, ben on est capable, dans une certaine mesure, de prédire à l'avance les effets de certaines thérapies comme cette molécule-là. Puis pour faire ça, ben on utilise notre biobanque de tissus. Donc, il y a peu de gens qui savent ça, mais à l'UCPQ, souvent chez les patients qui se font opérer pour différentes raisons, ben il y a des chirurgiens qui vont mettre dans une banque certaines parties de tissus. Donc nous, on s'intéresse beaucoup au foie parce que le foie, c'est vraiment le cerveau là du métabolisme, des lipides, des triglycérides aussi. Et en étudiant ben, le foie, puis on a une biobanque là, qui a plusieurs milliers de foie. Donc, nous, on va faire du séquençage d'ARN pour essayer d'identifier si cette protéine-là peut être dérégulée chez des gens qui ont certaines maladies. Puis aussi essayer de prédire, là, comme je le mentionnais, les impacts de cette thérapie-là.
Super intéressant, quand même fondamental aussi, je dois l'admettre. Puis là, tu parles beaucoup de maladies cardiovasculaires, puis tu sais, c'est un peu là-dessus justement que s'articule ta recherche. Puis on le sait que les maladies cardiovasculaires ben sont quand même omniprésentes là, dans notre société ou disons dans les sociétés plus modernes ou développées. Puis d'ailleurs, là, je fais une petite parenthèse, mais ceux qui ont reconnu ta voix, ben on t'entend justement dans l'émission Moteur de recherche. Puis récemment aussi, tu as été invité au balado de Caroline Huard, là, ou appelé Looney, là, sur un balado en fait qui s'intéressait sur l'impact du poids et de la santé, ou la santé et le poids, est-ce que c'est relié, etc. Puis quand on parle de maladies cardiovasculaires, ben on pense souvent à problèmes de santé et obésité aussi. Puis tu as d'ailleurs une page Facebook qui est dédiée à ce sujet-là plus précis pour rendre justement plus accessibles les publications en matière d'obésité et de santé. Puis est-ce que justement le fait de travailler des fois plus en fondamental, tu avais envie justement de créer une page qui était plus vulgarisée pour essayer de faire le pont là, entre ce qu'on entend aussi par les médias, puis de rassurer ou d'informer mieux les gens, là, justement?
Bien, c'est une très bonne question, puis je te dirais que moi, quand j'ai commencé mon laboratoire de recherche à l'UCPQ, c'était en 2013, donc ça va faire bientôt 9 ans, je me suis tout de suite posé la question, comment je vais faire pour que les travaux de recherche qui, je pense, peuvent avoir un certain écho dans la population en général, parce qu'on travaille sur un sujet qui touche la vie des gens quand même quand on parle d'alimentation, quand on parle de poids, de santé, de facteurs de risque, des maladies cardiovasculaires, ben je pense que il y a beaucoup de personnes qui ne gênent pas de dire leur opinion sur la place publique, qui sont pas nécessairement des scientifiques. Donc je me suis dit, tu sais, moi en tant que scientifique, je pourrais peut-être faire quelque chose pour essayer de valoriser les travaux de recherche puis de les mettre dans un contexte pour que les gens les comprennent d'une façon nuancée. Donc quand j'ai commencé, tu sais, c'était mon laboratoire, c'était moi puis juste une étudiante là, tu sais, on faisait du travail de laboratoire les deux ensemble, puis je me disais, ah tiens, je vais partir une page Facebook comme ça on va pouvoir acheter, quand on publie un article scientifique, on va pouvoir en parler, ou ben tu sais, quand il y a d'autres travaux de d'autres équipes de recherche, ben on va pouvoir partager ça puis dire ben comment nos travaux s'intègrent dans cette dans la lignée de travaux d'autres chercheurs, puis de donner des informations, tu sais, en général sur les habitudes de vie, sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc c'est vraiment, tu sais, sans prétention là, que j'avais fait ça au début, puis c'est toujours sans prétention que je le fais aujourd'hui, en tout cas je pense. Puis ben c'est ça, ça part petit, puis là ça grossit, puis là ben à cause de ça, ben je suis fréquemment appelé à commenter certains articles dans les médias. Puis comme tu l'as mentionné, j'ai une chronique mensuelle maintenant à l'émission Moteur de recherche là sur Ici Première, qui est l'émission à Montréal, en tout cas qui est l'émission la plus écoutée dans cette case horaire là, selon les derniers sondages là. Mais tu sais, moi j'y vais une fois par mois. On est une quarantaine, je pense, de chroniqueurs là qui ont des horizons vraiment large. Donc c'est vraiment super intéressant, super fascinant de trouver des sujets. Moi ça fait 3 ans que je fais ça, puis je pensais que j'étais pour faire une année, une dizaine de chroniques. Je me disais que j'avais du matériel peut-être pour ça, mais finalement les auditeurs et les auditrices posent toujours des bonnes questions, puis il y a toujours des nouveaux sujets de recherche qui sont pas trop loin de mon champ d'expertise, que ce soit en génomique ou que ce soit en prévention des maladies chroniques, cardiométaboliques ou sur les habitudes de vie. Ben finalement, je me rends compte que je risque de pouvoir faire ça encore une couple d'années, parce qu'il y a vraiment plusieurs sujets qui ont pas été discutés encore.
Oui, puis moi je t'écoute justement, j'écoute Moteur de recherche, puis j'apprécie vraiment aussi justement cette vulgarisation-là des articles scientifiques, des fois qui sont dans le cardio-métabolique, qui sont plus difficiles à comprendre, mais qu'on amène d'un autre aspect. Puis là, je parlais aussi du balado là, à plat ventre là, avec Caroline Huard, où on a... Où, en fait, le balado effleure beaucoup la grossophobie, puis j'aimerais ça t'entendre aujourd'hui un petit peu plus sur ce sujet-là, parce que c'est quand même, quand on parle de maladies cardiovasculaires, bien, on peut aussi penser à la grossophobie qui souvent, malheureusement, en fait, s'associe ensemble. Puis récemment, en fait, je pense que c'est en janvier là, même 2022, il y a un article dans la revue Châtelaine, qui est une revue quand même assez lue, là, populaire, qui mettait de l'avant le problème de la grossophobie médicale. Puis juste à titre indicatif, là, la grossophobie va se définir par le fait que certains professionnels de santé ont souvent des biais inconscients, là, cognitifs, là, qui nuisent à la relation de soins qu'ils ont avec leurs patients qui sont en surpoids ou en situation d'obésité. Puis, il y a plusieurs articles scientifiques même qui abondent dans le même sens depuis quelques années, allant même à dénoncer certaines études qui utilisent l'IMC, qui est comme une façon un peu simple peut-être de mesurer la santé cardio-métabolique d'un individu pour faire des liens justement entre le poids et la santé. Selon justement tes recherches et tes travaux, est-ce que c'est vrai de penser que la perte de poids pourrait améliorer considérablement la santé d'un individu?
Bon, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire, mais je vais commencer par la base. Là, c'est sûr que nous, on s'intéresse à la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, on va tenter de déterminer, bon, c'est quoi les facteurs qui vont être associé au risque de développer des maladies cardiovasculaires, donc des infarctus, des AV, des accidents vasculaires cérébraux, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a des dizaines et des dizaines d'études épidémiologiques qui ont fait la démonstration que le fait d'avoir un indice de masse corporelle élevé, donc pour les gens qui le savent pas, l'indice de masse corporelle, c'est notre poids par rapport à notre grandeur. C'est un indice, je vous dirais, grossier de notre poids corporel, puis de la relation avec la santé. Ben, on se rend compte qu'effectivement, il y a une relation. Surtout chez les personnes qui ont un indice de masse corporelle qui serait, par exemple, en haut de 30 kg par mètre carré. Donc, on va considérer les gens, puis là, j'ouvre les guillemets, obèses. Et puis, ben, on va dire, ben là, définitivement, si votre poids est élevé, ben, vous êtes plus à risque de développer des maladies. Donc, il faut absolument perdre du poids pour réduire votre risque. Je trouve que c'est une façon extrêmement simpliste d'amener le problème, parce que je lisais il y a pas si longtemps même le dernier consensus scientifique de l'American Heart Association, donc qui est un organisme assez influent qui s'intéresse à la santé cardiovasculaire aux États-Unis, duquel je suis membre aussi. Ben eux, ils disaient, ben il y a attention avec l'obésité, parce que il y a pas encore une seule étude qui a fait la démonstration que le fait de perdre du poids en changeant son alimentation, en faisant plus d'activité physique, ça prévenait des infarctus. Puis je te dirais même qu'au contraire, il y a plusieurs études qui ont démontré que en améliorant la qualité de notre alimentation, tu sais, comme par exemple en augmentant notre apport en fibres, en fruits et légumes, en mangeant plus de protéines végétales, etc., plus s'approcher d'une diète méditerranéenne, par exemple, mais ça diminue le risque de développer des maladies cardiovasculaires à long terme. C'est même dans certains cas, ça peut être aussi efficace qu'une pilule qu'on va prendre pour le cholestérol. Puis dans toutes les études qui ont fait cette démonstration-là, ben les gens qui étaient sur ces diètes-là, ben ils ont perdu aucune livre, ils ont pas perdu de poids du tout. Donc c'est faux de dire qu'il faut absolument perdre du poids pour diminuer son risque de maladie cardiovasculaire. Il y a des études, par exemple, dans d'autres maladies, comme je pense au diabète de type 2, par exemple, qui est vraiment, tu sais, avant les maladies cardiovasculaires, une maladie qui est intimement liée au poids, du moins si on en croit les études épidémiologiques sur le sujet. Puis encore là, ces études-là, faut en prendre puis en laisser. Mais la question est pertinente parce qu'il faut quand même faire la démonstration que si on perd du poids, ben on va changer notre trajectoire de risque. Puis il y a une étude qui a été publiée il y a peut-être une vingtaine d'années qui s'appelle Diabetes Prevention Program. Puis c'est une étude qui a été répliquée quand même, qui démontrait que justement une perte de poids en changeant nos habitudes alimentaires puis en augmentant notre niveau d'activité physique, ben ça pouvait, chez des gens qui étaient à risque de développer le diabète, ça pouvait diminuer le taux de conversion à un diabète de type 2. Mais quand on regarde les résultats de cette étude-là, ben on se rend compte que dans l'étude, les patients n'ont pas perdu tant de poids que ça. Tu sais, peut-être 3 ou 4 kilos, là, donc même pas une dizaine de livres. Puis, ce qu'il démontrait, c'est que le fait de perdre à peu près 5% de son poids, c'est là que les bénéfices étaient les plus élevés, puis qu'il n'y avait pas nécessairement de valeur ajoutée à aller dans des grosses pertes de poids pour la prévention du diabète de type 2. Là. Donc, je pense que, tu sais, quand on parle du traitement de l'obésité, puis de l'association avec la santé, puis tout ça, ben je pense qu'il faut faire attention parce que ben on contrôle dans une certaine mesure, tu sais, notre dépense énergétique puis notre rapport énergétique. Tu sais, c'est nous qui va faire ultimement le choix de bouger puis manger. Quoi que ça, même ce que je dis, c'est un peu simpliste parce que toutes sortes d'enjeux socio-économiques qui entrent en ligne de compte. Mais ce qu'on contrôle pas, c'est le poids qu'on va perdre, par exemple. Là, c'est la façon dont notre corps va répondre à ce type d'intervention-là. Donc oui, il y en a qui vont perdre du poids assez facilement, mais pour la plupart des gens, un changement des habitudes de vie, ça amènera pas nécessairement une perte de poids, puis surtout une perte de poids à long terme. Donc quand on dit que le poids devrait être une cible thérapeutique, ben moi, j'ai de la misère à embarquer dans ce discours-là parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut contrôler. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que peu importe le résultat de votre intervention sur le poids, donc si vous mangez mieux, si vous bougez, si vous diminuez votre stress, vous dormez mieux, etc., ben ça va améliorer votre santé cardiométabolique, ça va diminuer votre risque de maladie cardiovasculaire, de diabète de type 2, peu importe le poids que vous perdez sur la balance. Puis, tu sais, je te dirais même à l'autre bout du spectre, ben il y a des gens qui vont suggérer des régimes puis des façons, tu sais, plus drastiques de perdre du poids, tu sais, perder 8 livres en 3 semaines, tu sais, on voit ça là quand on va faire notre épicerie sur la couverture des magazines. Ben il faut vraiment faire attention parce que ces diètes-là, ces régimes miracles-là, ben pour la plupart des gens, ça marche pas du tout. Puis le fait de perdre du poids rapidement aussi, ça fait en sorte que, ben quand on se rend compte que là, tu sais, notre corps est dans une situation de famine, puis dans l'environnement alimentaire qu'on est, ben forcément, on va reprendre le poids qu'on a perdu. Puis, ben dans plusieurs cas, on va aussi en reprendre plus. Donc, si on fait ces espèces de régimes-là, puis c'est exactement le fil conducteur du balado de Looney, là, à plat ventre, qui est disponible sur la plateforme audio de Radio-Canada, ben c'est un peu ça que ça essaie de mettre de l'avant, là, que ce type de régime-là, ben probablement, c'est pas efficace, puis ça a probablement plus de conséquences que de bénéfices, notamment sur notre santé mentale, la relation qu'on a avec avec la nourriture, la relation qu'on a avec notre corps, etc. Donc, c'est pour ça que, tu sais, le poids, pour moi, c'est évidemment, même s'il y a un lien épidémiologique, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut garder. Il y a des nuances à apporter quand on parle de ça, là, dans l'espace public, surtout.
Mm-hmm. Puis c'est super intéressant, puis tu l'as mentionné à plusieurs reprises, là, tu sais, on parle beaucoup de la culture, justement, des diètes qui est omniprésente dans notre société, puis qui, malheureusement, comme on le mentionnait en début d'émission, bien, ça a un impact quand même sur ce que pensent les professionnels de la santé. Puis des fois, dans un rendez-vous avec un médecin qui c'est pas très long, bien, ça peut être très culpabilisant pour une personne, justement, qui fait déjà peut-être des changements dans ses habitudes ou qui est en train d'amorcer des changements, mais qui réussit pas à perdre du poids puis de se faire dire... Vous devriez perdre un bon 50 livres là, pour améliorer votre santé, mais ça peut être dur à prendre et culpabilisant. Puis, il y a même certains auteurs qui croiraient que le simple fait de vivre un peu cette discrimination-là, que ce soit d'un professionnel ou même de la société en général, ça pourrait entraîner une augmentation drastique là, ou disons plus une augmentation chronique là, des hormones de stress, dont le cortisol, qui serait tout le temps un petit peu haute, qui amènerait l'individu dans un mode un peu inflammatoire, puis qui pourrait aussi nuire à, par exemple, ses paramètres là, au niveau cardio-métabolique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé, que tu as lu, ou c'est pas encore très clair là?
Ben c'est évidemment l'explication métabolique, le lien entre les deux, c'est très difficile à faire, puis on il y a de plus en plus d'études qui vont faire le lien entre le fait d'avoir un poids élevé et des troubles cognitifs comme le développement de certaines maladies comme la démence ou l'Alzheimer, etc. Puis encore une fois, c'est un peu la même chose que les maladies cardio-métaboliques là. C'est pas parce qu'on fait un lien épidémiologique que il y a nécessairement une relation de cause à effet entre les deux. Il peut y avoir une relation de cause à effet, mais le sentier par lequel le poids va causer ce type de maladie-là, ben il est pas toujours connu. Puis c'est souvent quand on étudie ça, souvent on a des biais aussi, parce qu'on se fait dire que ben tu sais, l'obésité c'est dommageable pour plein de systèmes, à cause que par exemple notre tissu adipeux ou notre excédent de graisse corporelle, c'est un organe endocrinien, ça va sécréter toutes sortes d'hormones, des hormones inflammatoires, ça va créer de l'inflammation dans notre cerveau, puis c'est ça qui va causer plusieurs maladies. Mais ça c'est peut-être vrai, puis tu sais, il y a des niveaux d'évidence qui suggèrent ça, mais aussi lorsqu'on est plus gros, ben on vit constamment dans un monde qui nous pathologise puis qui nous stigmatise, puis ça on l'apprend dès l'enfance. Les jeunes enfants qui sont plus gros que les autres, ben ils vivent de l'intimidation. Puis aussi, ça peut, tu sais, ils vont se faire dire de faire des diètes là, tu sais, souvent là on voit ça même dans l'enfance là, des enfants qui ont pas 10 ans puis qui sont déjà sur des diètes restrictives, puis qui se font dire par leurs parents, par leurs frères, leurs sœurs, leurs amis à l'école qu'il faut absolument qu'ils perdent du poids pour être dans cette normalité là. Ben ça peut amener des effets très très néfastes aussi sur la santé mentale, et c'est des effets qui sont pas nécessairement dus au poids corporel, mais c'est des effets qui sont dus au regard que la société va porter sur les personnes qui ont pas un corps dans les standards de beauté là, disons-le comme ça là. Donc il faut faire très attention, c'est très nuancé, il faut être nuancé quand on essaie, tu sais, un peu bêtement des fois de dire ben l'obésité ça cause 56 maladies. C'est ça, il faut faire la démonstration que c'est pas dû à des facteurs confondants comme ceux que comme ceux que je viens de nommer, puis j'en ai nommé quelques-uns, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'autres, que ce soit au niveau de notre biologie, de notre environnement familial, de notre environnement socio-économique, des politiques de santé publique, du groupe ethnique auquel on appartient. La relation entre le poids puis la santé chez les hommes puis les femmes aussi, c'est complètement différent. Donc je pense qu'on aurait passé de notre entrevue pour en parler, il faudra en parler tout l'après-midi là, mais faut vraiment faire attention, puis aussi pas toujours se poser la question un peu plus là, parce que c'est facile aussi quand on va lire des articles qui sont dans les journaux, qui va dire ben tu sais, l'obésité ça cause toutes ces maladies, ça coûte 3 milliards par année au Québec. Ben tu sais, il faut c'est à peu près impossible de dire que c'est strictement dû à l'excès de poids, parce que les personnes grosses et les personnes minces sont pas juste différentes de par leur indice de masse corporelle. Il y a toutes sortes d'enjeux qui font en sorte que ces personnes-là sont différentes, et souvent c'est trop complexe pour vulgariser dans un texte de 400 mots là. Donc on va aller tout de suite au punchline, qui plus souvent qu'autrement est très stigmatisant pour les personnes grosses.
Puis, comme tu le mentionnes, évidemment, on fait des associations qui sont très simplistes, un peu tout ça. C'est peut-être rassurant aussi de se dire, c'est obésité égale pas bon pour la santé, être mince égale bon pour la santé, alors qu'on sait que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Puis tu sais, souvent, puis malheureusement, même chez des gens qui sont très éduqués puis qui sont dans le domaine de la santé, on peut penser que les personnes qui sont en surpoids, en obésité, c'est parce qu'ils manquent de motivation. On entend ça souvent, cette personne-là est un peu paresseuse, elle aime pas se bouger, elle préfère manger des choses qui sont moins bonnes pour la santé, etc. Puis est-ce que tu penses que ça serait vrai de penser qu'il y a des aspects génétiques aussi qui seraient liés à l'obésité?
Ah, mais ça, il y a aucun doute, puis ça, c'est connu dans la littérature scientifique depuis 40 ans, là. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites là-dessus, par exemple, dans les années 80, même des grosses investigations chez, par exemple, souvent quand on veut étudier la composante génétique, puis on n'a pas tous les outils qu'il faut, ce qu'on va faire, c'est on va étudier les jumeaux, parce que, les jumeaux partagent exactement le même bagage génétique. Puis lorsqu'on regarde, par exemple, des grosses études de grosses cohortes de jumeaux qui, par exemple, ont été séparés à la naissance, puis on est capable de retrouver le poids des jumeaux à l'âge adulte, ben on se rend compte que le poids d'un jumeau est presque pareil à l'autre, même s'ils ont été élevés dans des environnements qui sont complètement différents. C'est le même cas par exemple chez des enfants qui ont été adoptés, encore une fois des études qu'on sait depuis les années 80, c'est bien démontré que les enfants adoptés ont un poids qui est davantage similaire à leurs parents biologiques qu'à leurs parents adoptifs. Donc ces gens-là qui ont été adoptés ont davantage un poids qui ressemble à leurs parents qui leur ont transmis leurs gènes qu'à leurs tuteurs qui les nourrissent à tous les jours. Puis nous, on s'intéresse beaucoup à ça. Moi, avec un étudiant dans mon équipe, on s'est intéressé justement à comment les variations génétiques dans notre génome influencent notre poids corporel. Puis ce qu'on sait maintenant, tu sais, on est à l'ère du big data, des données massives, puis tout ça, les dernières grosses études d'association génétique sur le poids, ils ont identifié plusieurs centaines, même peut-être plus que 1000 régions dans notre génome qui vont influencer notre poids corporel. Et nous, on s'est dit, OK, c'est bien beau de savoir ça, mais tu sais, ces gènes-là, ils font quoi? Donc,
Est-ce que juste pour préciser, est-ce que justement vous vous demandez, est-ce que c'est parce que les gens ont de la misère à perdre du poids, ou c'est qu'ils en prennent facilement, ou tu sais,
c'est qu'on va regarder des bases de données là, vraiment immenses, là, plusieurs centaines de milliers d'individus. On va mesurer leur poids corporel. Il y en a qui sont plus gros que d'autres. On se demande, est-ce que les gens qui sont plus gros ont des variations génétiques qui sont différentes des gens minces? Là, puis la réponse, c'est oui. Là, puis on peut expliquer avec la génétique, là, dépendamment des études puis des devis expérimentaux, c'est entre 60 à 70 % de la variabilité de l'indice de masse corporelle dans la population qui est expliquée par des facteurs génétiques, là. Donc, c'est ça. Quand j'entends dire certaines personnes qui vont rejeter cette hypothèse-là de la régulation du poids par des facteurs génétiques, qui disent « Ouais, mais il y a 40 ans, on n'était pas gros, puis aujourd'hui, la moitié du monde est gros, puis nos gènes n'ont pas changé », c'est pas faux nécessairement de dire ça. Mais quand on regarde les études, on se rend compte que les gens qui avaient une susceptibilité génétique à avoir un poids élevé dans les années 60, 70, 80, ben il était pas gros parce que l'environnement alimentaire était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, ben les gens qui ont une susceptibilité génétique à être minces, ben ils sont capables de résister à cet environnement-là. Alors que les gens qui ont une susceptibilité génétique à avoir un poids plus élevé, ben là, dans l'environnement alimentaire dans lequel on vit, où est-ce que la nourriture de moindre qualité est abondante, ben ça va en quelque sorte réveiller cette susceptibilité génétique-là. Là. Donc, pour moi, le fait de dire que ben les personnes qui sont plus grosses que la moyenne, ben sont plus grosses parce que sont paresseuses, parce qu'ils manquent de volonté, ben c'est juste carrément pas supporté par la science. Là,
ça renvoie un petit peu pas la faute, parce qu'on peut pas dire que c'est la faute de quelqu'un ou quelque chose, mais ça renvoie aussi à l'environnement, justement, comme tu le mentionnes, l'environnement obésogène, et donc peut-être nos politiques qui sont associées ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place en santé publique, là, justement, pour modifier ça. Puis justement, c'est quand vous trouvez ce genre d'informations-là ou que vous êtes plus à l'aise d'en parler, comment ça peut orienter la pratique là, des professionnels sur le terrain de savoir ça?
Bien, je vais dire que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est notre environnement qui fait en sorte que notre poids a augmenté. Tu sais, c'est... Le poids moyen populationnel a augmenté à peu près dans tous les pays, à peu près en même temps, vers la fin des années 80 puis au début des années 90. Là, tu sais, c'est pas comme par exemple de dire, c'est que c'est comme si tout le monde dans tous les pays, on s'était dit, ah ben tu sais, c'est-tu quoi, la saine alimentation puis l'activité physique, c'est plus bon pour moi. Tu sais, c'est les changements environnementaux qui ont fait que ben présentement on est plus sédentaire à cause de notre travail, puis ben à cause on travaille plus, donc à cause de ça on a moins de temps pour cuisiner, etc., manger des aliments frais, ça coûte de plus en plus cher, donc c'est pour ça qu'on voit une augmentation moyen dans les différents pays de notre poids corporel. Ça c'est sûr et certain. Puis comme je le mentionnais, ben quand on regarde au niveau individuel, ben c'est vraiment la susceptibilité génétique qui va faire en sorte que certaines personnes vont avoir un poids plus élevé que d'autres, là. Donc oui, c'est notre environnement qui nous a amené là, puis en changeant notre